Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, voici votre rendez-vous hebdomadaire avec les carnets de région. Une émission réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Pour cette semaine encore, c'est Radio Grille Ouverte à Alès qui en assure la rédaction en chef. Au sommaire de cette édition, la réforme des rythmes scolaires, laquelle est loin de faire l'unanimité, y compris en secteur rural. Il sera question de viticulture avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la cave coopérative de Montagnac dans l'Hérault. Nous irons dans l'Aude où se tient en ce week-end de Pentecôte à Lézignan-Corbière le salon Promode. À Anyan, le jardin de l'abbaye est réhabilité par un architecte japonais, Kinya Maruyama. Enfin, cette édition se refermera avec un point sur la grève des intermittents du spectacle à Montpellier. La réforme des rythmes scolaires. Voici quatre mots qui hérissent le poil à bon nombre de communes, de parents d'élèves et d'élus. Beaucoup d'entre eux s'accordent à dire que cette réforme est nécessaire, mais que les moyens mis en œuvre pour pouvoir l'appliquer ne permettent pas d'organiser au mieux le temps périscolaire des enfants. Ainsi, à Monoblet, dans les Cévennes, un collectif de parents d'élèves a vu le jour. Ses membres espèrent bien arriver à faire bouger les choses, comme l'explique Olivier Hutin, l'un des membres fondateurs de ce collectif.
La réforme en elle-même, elle est plutôt bonne, et d'ailleurs elle est même envisageable et souhaitable, et tout ce qui est proposé au départ sur le papier, c'est plutôt bien. Maintenant, la confrontation au réel, c'est-à-dire ce qui est entre la théorie et la pratique, comme d'habitude, et en l'occurrence dans nos petites contrées, un petit village de Monoblet, 800 habitants à peu près, 90 enfants... Donc la réalité, c'est qu'on devient vite comptable, comme je disais, c'est-à-dire qu'on s'occupe de choses financières qui ne devraient pas être dans nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des mouvements nationaux, enfin sur tout le territoire national, des mouvements épars, et qui communiquent plus ou moins bien ensemble. Et c'est vrai que c'est un petit peu le souci aujourd'hui, c'est que, et encore plus, ça se creuse encore plus dans... quand on est dans un petit village, peut-être un petit peu plus isolé, on se rend compte que des mouvements en fait se sont créés et ne communiquent pas localement ensemble. Donc voilà, ce serait peut-être un peu le but de faire une petite tache d'huile et de pouvoir communiquer ensemble et agir ensemble.
Une réaction qui arrive tardivement. À quelques semaines des vacances scolaires, il serait donc plus difficile de mobiliser les parents d'élèves. Alors, pourquoi cette réaction tardive ? La réponse de Magali Méjean, membre du collectif des parents d'élèves.
On a demandé, nous les parents, de savoir quelles sont les conséquences selon le choix de la mairie. Et c'est comme ça qu'en fait on s'est aperçu au cours de la réunion que personne n'était satisfait de n'importe quel choix que pouvait prendre la mairie. Donc on a décidé là d'agir, même si c'est un peu tard, mais c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard.
Le collectif a déjà organisé une action à l'école de Monoblet mercredi dernier et compte bien se réunir de nouveau pour mettre la pression sur les pouvoirs publics. Ces interviews ont été réalisées par Rémi Goujon de Radio Escapade. La toiture de la cave coopérative de Montagnac dans l'Hérault, construite en 1937, est désormais recouverte de panneaux solaires. Cette cave, l'une des plus grandes d'Europe, est recouverte par 3000 mètres carrés de surface photovoltaïque mise sous tension. Un investissement de 900 000 euros payé intégralement par une société privée. Le président de la cave coopérative de Montagnac, René Moreno, explique à Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault en quoi consiste précisément le contrat passé avec l'entreprise Cadran.
Nos priorités aujourd'hui sont d'équiper la cave coopérative sur des outils de dernière technologie par rapport à la qualité des produits donc à réaliser pour le marché. Et donc on a eu la possibilité donc de réaliser, dans le cadre d'une convention de location que nous avons passée avec la société Cadran, donc de refaire nos toits sans que la cave n'investisse pour donc une durée de location de 20 ans sur des panneaux photovoltaïques. Et en plus, on est un petit peu dans une démarche de développement durable Moins de production de CO2, de l'énergie propre, hein, donc ce qui est quand même intéressant pour une cave coopérative de s'engager dans ce genre de démarche, hein, et avec des toits qui sont neufs, sans que ça ait coûté un centime à la cave coopérative, et au bout de 20 ans, bien évidemment, ça reviendra à la cave, puisque le contrat de location porte sur 20 ans, et la cave utilisera cette énergie, soit pour sa propre consommation, soit elle le revendra, comme le fait aujourd'hui le locataire à EDF.
L'énergie produite sur le toit de la cave coopérative est-elle directement réinjectée dans votre propre réseau ?
Non, ce n'est pas réinjecté dans notre propre réseau. Ça, c'est le choix qui appartient à la société Cadran. Elle le revend, cette énergie, à EDF. Donc, je peux vous donner un chiffre quand même qui est intéressant. L'énergie produite est pour une consommation domestique de 438 habitants, ce qui représente 12% de la population de Montagnac.
Et donc, vous nous le disiez, au bout de 20 ans, les coopérateurs seront propriétaires à la fois des panneaux et de l'énergie produite.
Tout à fait. Après, il appartiendra aux gens qui seront à la direction de cette cave coopérative, hein, de faire le choix, soit d'utiliser l'énergie produite donc au bout de 20 ans, soit d'utiliser l'énergie produite pour la consommation propre de la cave coopérative, soit de la revendre comme le fait aujourd'hui la société Cadran à EDF. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que cette forme d'énergie, donc solaire, économise 174 tonnes de CO2 par an par rapport donc à l'énergie traditionnelle que nous connaissons.
C'était un sujet proposé par Adrien Delgrange pour RPH.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Chaque week-end de Pentecôte se tient à Lézignan-Corbière le salon Promode. La 25e édition se tient cette année du 6 au 9 juin. Plus qu'une foire exposition, la manifestation se veut porteuse de sens sur tout ce qui fait l'Aude. René Martinol, véritable mémoire vivante de Promode, se confie au micro d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
On voulait qu'il y ait du sens parce que notre époque fonctionne quand même beaucoup à l'affectif, pas uniquement à l'économique, et tracer des perspectives d'espoir et d'avenir. Le sens, c'est l'implication de la jeunesse, une journée entière destinée aux jeunes de toutes les écoles du département et même d'ailleurs, où toutes les animations sont gratuites, avec un effort extraordinaire des exposants qui organisent des animations spécifiques.
Il y en a beaucoup, ils sont 150 cette année. Hein.
Alors, les exposants sont 150 et inscrits déjà, nous avons 2700 jeunes gens qui viendront parce qu'ils sont inscrits, donc il y en aura certainement un peu plus parce qu'il y a tous ceux qui viennent au dernier moment.
Et dans les chiffres, pour terminer avec les chiffres, le public, 50 000 visiteurs chaque année. Hein.
Approximativement, pour ne pas fâcher les services de sécurité très pointilleux là-dessus, 50 000 en tournant, ça donne sur une présence quand même forte sur le site.
Ça circule pendant 4 jours, quoi. Hein.
Alors, ça circule pendant 4 jours, j'ai pas tout à fait fini sur le sens. Donc, sur la jeunesse, l'autre axe fort étant la priorité des priorités aux producteurs et pas aux revendeurs. Producteurs, à la fois de l'agroalimentaire, mais aussi du monde artisanal et tout ce qui concerne le tourisme rural. Voilà les axes fondamentaux qui représentent donc le département de l'Aude, dont il ne faut jamais oublier que c'est avant tout un département rural, patrimonial, naturel, et le site de Gaujac sous une pinède, avec des parkings à proximité gratuits, des stades. Cette nature correspond bien à la fois aux attentes de la population d'aujourd'hui, mais aussi est un symbole par rapport à ce que peut représenter le département de l'Aude.
cette 25e édition de Promode comportera des nouveautés. En l'occurrence, un audiodon solidaire, unique en France, porté par la Bibliothèque sonore de l'Aude pour faire lire un livre entier en 4 jours. Et une tastothèque pour découvrir, sous chapiteau, près d'une centaine de vins de l'Aude. Mais rappelez-vous, ces derniers sont à consommer avec modération, au contraire de la lecture. L'architecte japonais Kinya Maruyama mène depuis cette semaine un projet de réhabilitation du jardin de l'abbaye d'Anyan dans l'ensemble prestigieux chargé d'histoire au cœur du grand site de France, Saint-Guilhem, gorge de l'Hérault. Cette ancienne colonie pénitentiaire est désormais propriété de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, et ce depuis 4 ans. Au programme, pendant 15 jours, 6 ateliers participatifs pour le public avec des temps d'échange et de rencontres sur lesquels revient Cathy Galdin, chargée de l'animation culturelle de l'abbaye pour l'intercommunalité.
Alors en fait, on accueille Kinya Maruyama qui est architecte et paysagiste, il nous vient de Tokyo, pour un projet de valorisation de ce jardin de l'abbaye d'Anyan qui est en fait le jardin du directeur, de ce qu'on appelait le directeur au temps de la colonie et la colonie pénitentiaire sous le ministère de la Justice. L'idée, c'est de revaloriser ce jardin, de lui redonner vie avec un projet participatif. Donc il y a beaucoup de personnes individuelles qui se sont inscrites. Il y a également des groupes formés, comme le lycée technique de Gignac avec la classe de BTS aménagement paysager. Il y aura aussi des personnes de l'hôpital de jour de Gignac qui viennent accompagner, et des groupes des centres jeunesse de Gignac et d'Anyan qui viennent avec leurs accompagnateurs également. Pour commencer cette année à réfléchir sur les dessins, les propositions qui pourront être faites et aboutir en 2015 à la création de ces différentes installations qui prendront vie dans le jardin. L'objectif est d'ouvrir le jardin au public en juin 2015.
Impressionné par le passé carcéral du lieu, l'architecte Kinya Maruyama a accepté le projet d'aménagement du jardin qui est mené autour de ses ateliers participatifs qu'il anime.
Voilà, c'est une histoire, ce que j'ai entendu, c'est très sombre, puis très mal. Mais aujourd'hui, ça change. Le commencement de workshop, c'est toujours comprendre le lieu. Même les habitants, ils ne connaissent pas beaucoup. On a commencé de promener, collecter des choses, commencer de dessiner chacun, et puis travailler ensemble, ça veut dire 5 personnes en groupe. Puis après, aujourd'hui, ça commence de proposer plus de détails. Qu'est-ce qu'ils veulent dans ce jardin? On a là de jolis belvédères pour regarder l'histoire de cette histoire de un peu sombre. Ouvrir un mur, comment on peut connecter l'extérieur, l'intérieur, ou bien l'histoire, ou bien l'autre culture, comme je suis venu depuis le Japon, ou bien on fait du cheminement, ou bien on fait du jardin un peu japonais, tout le monde aime, mais on peut transmettre des idées.
C'était un sujet réalisé par Alain Mendez de Radio Lodev. Depuis lundi 2 juin, un mouvement de grève des intermittents du spectacle a empêché à Montpellier l'ouverture du printemps des comédiens. La coordination régionale demande au gouvernement, et en particulier au ministre du Travail, François Rebsamen, de ne pas agréer à un accord qui modifie défavorablement leurs conditions d'accès à l'assurance chômage. Un préavis de grève, reconductible de 24 heures en 24 heures, a été posé par la coordination régionale. La comédienne Stéphanie Marc, l'une des porte-paroles des intermittents, est bien consciente des difficultés que ces actions peuvent causer alors que s'ouvre maintenant la saison des festivals.
Le personnel qui est en grève, évidemment, n'est pas payé depuis le 3 juin. Les compagnies qui n'ont pas joué, évidemment que c'est un manque à gagner. La situation du printemps, maintenant, elle commence à être très difficile financièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être entendu, bon sang? Moi, ça fait 2 mois que je m'agite partout, dans tous les sens, qu'on fait de la négociation, de l'information. On a 100 lettres d'élus qui vont de Cambadélis à Aubry, qui envoient une lettre à Rebsamen pour lui dire de ne pas signer à Philippe Etier, de regarder ses propositions, qu'elles sont mieux et qu'elles vont dans le bon sens des choses. On n'entend rien. personne n'en parle. À un moment donné, il faut bien qu'on tape un coup sur la table. Et la preuve que ça marche, depuis que le premier jour où le printemps a été en grève, on a toute la presse, alors qu'on n'avait rien, on n'arrivait pas à communiquer sur l'accord, on n'arrivait pas à communiquer sur nos propositions. Évidemment qu'on met en péril plein de choses, et nous, on est des gens responsables, et on aime assez nos métiers et nos spectacles pour pas se réjouir du tout de ce qui se passe. Mais derrière, maintenant, il faut qu'ils se dépêchent, parce que la saison des festivals commence à peine, et on est très très fort, et de plus en plus fort.
Stéphanie Marc s'exprimait au micro de RGO. Ce carnet de région se referme. Merci aux radios contributrices. Radio Grille Ouverte en fut le rédacteur en chef. Un rôle assuré la semaine prochaine par RCF Pays d'Aude. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Rendez-vous même lieu, même heure, la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.